Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vous voulez un whisky ?
Ou juste un doigt.
Juste un droit. Hey !
Aux yeux de la justice, l'affaire est close, mais pas autant qu'elle le croit. Je suis Romain Gouloumès, vous écoutez Juste un droit, et ensemble nous allons déballer un vieux dossier. Une fois n'est pas coutume, aucun avocat ni magistrat ne viendra s'exprimer, les forces de l'ordre non plus. Aujourd'hui, les micros de Juste un droit sont réservés à deux journalistes indépendantes. Émilie Denêtre et Adèle Imbert signent une série audio d'investigation intitulée 1000 degrés. Divisée en 10 chapitres, leur enquête s'enrichit d'un nouvel épisode chaque semaine depuis le lundi 6 mai. Une enquête sur quoi, me direz-vous ? L'affaire Massé. Alors comme les faits datent un peu, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Le 16 décembre 1994, à Portet-sur-Garonne, Joseph et Dominique Hernandez sont grièvement brûlés dans l'explosion d'un colis piégé adressé à leur entreprise. Les soupçons de la police se portent immédiatement vers Daniel Massé. Entre lui et les Hernandez, les relations sont plus que tendues sur fond de différends financiers et d'empoignades musclées. Daniel Massé sera acquitté en première instance avant d'être condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il n'a jamais cessé de clamer son innocence depuis. Émilie Denêtre et Adèle Imbert, bonjour et bienvenue dans Juste un droit.
Bonjour.
Bonjour.
Il est 16h et on arrive sur le lieu du crime, dans la zone commerciale où se situait l'entreprise Métilance, l'entreprise du couple Hernandez.
Alors, vous m'excuserez, j'ai vraiment très sommairement résumé cette affaire. Hein. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, mais j'aimerais justement profiter pour vous poser la question que tout le monde vous pose. Pourquoi l'affaire Massé ?
Alors, l'affaire Massé, on l'a découverte en fait dans un magazine. Et c'est une histoire qui a tout de suite piqué notre curiosité. Bon, déjà, c'est vrai que c'est une affaire très ancienne. Mais Daniel Massé, 25 ans après les faits, après être sorti de prison, il a fait 17 années de prison sur les 25 sur lesquelles il a été condamné, continue de clamer son innocence. Et c'est quelque chose qu'il fait sans discontinuer depuis le premier jour où il est entré en garde à vue. Donc déjà, il y avait cette première curiosité. Et puis ensuite, c'est une affaire très clivée parce que de l'autre côté, du côté des victimes, on a des gens qui ont désigné d'emblée Daniel Massé comme étant le coupable. C'est pas quelqu'un qui a été trouvé au fur et à mesure de l'enquête, après des investigations. Il a été montré du doigt d'emblée par les victimes qui sont certaines, dès le début et 25 ans plus tard, que Daniel Massé est l'auteur de ce colis piégé. Et puis enfin, c'est un petit peu particulier cette histoire de colis piégé en affaire criminelle. Concevoir et penser un colis qu'on envoie qui va exploser quand on a dévissé deux vis pour faire qu'une boule de feu de 1000 degrés saute au visage des victimes, on est quand même dans la préméditation, dans quelque chose de très pensé. On est très loin du coup de sang qu'on peut avoir, par exemple, avec des meurtres sans préméditation, par exemple, avec un coup de fusil ou un coup de pistolet. Enfin, voilà. C'est une affaire qui est différente.
Oui, ça inclut la préméditation.
Mm. Et sur le plan judiciaire, c'est aussi un cas d'école, puisque Daniel Massé est du coup le premier Français qui a été condamné après avoir été acquitté par une cour d'assises. Peut-être qu'on reviendra plus tard.
C'est ça, hein, c'est qu'en gros, il s'est passé 9 ans entre les faits. Il a été d'abord acquitté, donc il a repris sa vie. Hein, je crois même qu'il a eu un enfant, il a trouvé une nouvelle épouse. Et in fine, 9 ans plus tard, un nouveau procès. Et là, il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Comment ça se fait ? Comment expliquer ce distinguo entre ces deux procès et des verdicts totalement différents ?
Déjà, sur le plan judiciaire, c'est parce qu'il y a une disposition du code, une nouvelle disposition qui a été intégrée au code de procédure pénale peu de temps avant la décision d'acquittement de Daniel Massé, qui permettait au procureur général de faire appel d'une décision d'acquittement de la cour d'assises, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc l'avocat général s'empare de cette nouvelle disposition, fait appel de la décision d'acquittement, et Daniel Massé passe du coup de 0 à 25 ans. Il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle par une autre cour d'assises, un autre jury populaire aussi.
Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de nouveaux éléments ? C'est-à-dire l'enquête était plus ou moins la même dans les deux procès ?
Quasiment. C'est à peu près le même dossier qui va retourner devant. Donc le premier procès se passe aux assises de la Haute-Garonne à Toulouse. Le second procès se passe du coup du côté de Montauban, Donc l'affaire est juste dépaysée dans le département voisin, comme c'est coutume de le faire. Et c'est quasiment la même affaire qui arrive, le même dossier qui arrive devant les jurés, avec des petits éléments supplémentaires. Bon, on passe de 0 à 25 ans. L'avocat général avait requis 15 ans en première instance. Il va cette fois-ci requérir 25 ans de réclusion criminelle. Donc lui-même aussi augmente la peine qu'il estime juste de donner à Daniel Massé au nom de la société. C'est pas le même juré, c'est pas le même jury, pardon. Donc ça joue aussi. Ça, c'est des choses qui sont assez compliquées à définir. C'est aussi toute la subtilité d'avoir des jurés qui sont issus de la société civile pour juger, qui ne sont pas des professionnels, avec tout ce que ça implique comme aléatoire, ni plus ni moins, quoi.
Maintenant que vous avez travaillé la matière qui du coup n'était plus très jeune, c'est-à-dire que l'affaire s'est produite en 1994, donc là on est exactement 25 ans plus tard, est-ce que vous avez remarqué des trous, des pistes non explorées justement par la partie et la défense et au contraire l'avocat général ?
On s'est interrogé, on s'est demandé comment il était possible que Daniel Massé puisse 25 ans après les faits continuer de clamer son innocence et se rattacher du coup à un doute, en fait, qui subsiste 25 ans plus tard. Et ce doute-là, il naît du fait que, effectivement, on a l'impression qu'il y a des pistes qui n'ont pas été exploitées jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Émilie. On a repris ces pistes-là et on a vraiment essayé d'aller les explorer jusqu'au bout. Alors, on n'a pas les réponses à toutes les questions, mais on apporte de nouvelles réponses, on apporte de nouveaux éléments.
Et on est tenté d'aller au moins jusqu'au bout de ces pistes qui apparaissent au tout début de l'enquête et qui, après, on va avoir l'impression, dans le dossier d'instruction, puisque nous, on a lu tout le dossier, on a l'impression qu'au bout d'un moment, elles s'effilochent, elles n'apparaissent même plus dans le dossier. Pourtant, elles sont écrites à un moment donné noir sur blanc et après, elles disparaissent. Donc on s'est attaqué à ça.
Et effectivement, il y a une piste, notamment une piste qui est mise en valeur par notamment le comité de soutien de Daniel Massé en ligne.
Qui est mené par le fils, je crois, c'est ça, Yannick Massé, fils de Daniel Massé.
Et cette piste-là, on l'a exploitée aussi jusqu'au bout, mais on ne peut pas non plus
on peut pas
tout
trop
dévoiler
déflorer.
Ici.
Qu'est-ce que vous avez pensé du travail d'enquête réalisé en amont et qui a permis et l'acquittement et quelques années plus tard, ce verdict de 25 ans pour Daniel Massé.
Alors, sur le travail d'enquête, on est dans les années 90. Donc, la police a beaucoup changé depuis. Donc, il faut se remettre un petit peu dans l'état d'esprit des policiers de l'époque. Pas de téléphone portable, l'ADN, on n'en est pas encore là en France. Donc, on est sur une méthode de police ou d'enquête un petit peu à l'ancienne, à l'intuition, avec des gardes à vue... musclé. On est encore un petit peu à ce stade aux aveux, c'est-à-dire que ce qu'on veut obtenir, ce sont des aveux. On voit que les choses ont beaucoup évolué depuis. Bon, reste que cette enquête, déjà dans la phase d'enquête, on a pu repérer des failles. C'est flagrant. L'enquête, elle débute par la gendarmerie et au bout de 15 jours, la gendarmerie va être dessaisie au profit de la police judiciaire. C'est un cas, c'est assez courant dans les affaires judiciaires. Et disons que la passation de dossiers se fait pas très bien. La gendarmerie est assez vexée d'être dessaisie. La police arrive, certaine que évidemment une grosse affaire comme celle-ci ne pouvait pas lui échapper sur son territoire. Et c'est vrai que les pistes qui avaient été dressées par la gendarmerie, il y en avait trois, vont pas être reprises par la police. Alors faute de la police ou faute du magistrat instructeur. Qui n'a pas répercuté les pistes auprès des policiers. Bon, ça, on ne peut pas forcément en parler. On ne peut pas forcément le dire en l'état actuel, mais c'est un état de fait. Ensuite, dans les failles, un truc un peu incroyable, mais on s'est aperçu dans le dossier que les époux Hernandez, donc les victimes, n'ont été interrogées que deux fois, le jour même de l'explosion du colis piégé, une fois sur place, avant que les pompiers et les ambulances les emmènent, une seconde fois à l'hôpital beaucoup plus tard dans la journée avant d'être plongé dans un coma artificiel. Et c'est tout. C'est-à-dire que quand c'est par les gendarmes, vu que c'est le jour même, et les policiers ne les interrogeront jamais. Donc ils seront interrogés par le magistrat instructeur, mais les policiers qui vont mener l'enquête pendant les 8 années qui vont suivre ne les auront jamais. En interrogatoire, c'est quand même impressionnant cette faille. Et puis on s'est aussi aperçu que la question n'est pas posée non plus par les gendarmes. Ils pointent d'emblée Daniel Massé, mais la question « qui d'autre ?» D'accord, Daniel Massé, mais qui d'autre pourrait vous en vouloir ? Pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, avez-vous d'autres ennemis ? N'est pas posé.
Ce qui se passe, c'est qu'en gros, il y a un litige commercial dans les années 90. Donc, José Fernandez et Daniel Massé travaillent ensemble, ils sont collègues. Et le jour où l'un et l'autre quittent l'entreprise dans laquelle ils travaillaient, chacun part sur ses projets perso. Et José Fernandez crée une entreprise, donc l'entreprise Medilens, qui est une entreprise de fabrication de lentilles de contact. Et Daniel Massé propose à José Fernandez de lui prêter des machines de fabrication de lentilles que lui a bricolées, a récupérées. Il fait beaucoup de récup. Il a récupéré des machines à des salons d'opticiens, salons de l'optique. Il a bricolé ces machines et il lui propose de lui faire un contrat de prêt de ces machines. C'est lui-même qui rédige le contrat de prêt des machines. À la main, on a le contrat de prêt dans notre dossier. Et on s'aperçoit qu'en fait, le contrat est mal rédigé. Et il y a un litige qui naît à partir du moment où
Le litige, en fait, c'est un litige commercial. C'est un litige financier. Daniel Massé et José Fernandez étaient censés s'associer sur une entreprise. C'était prévu, ça a duré un petit peu. Et au moment où les choses doivent se faire... Bah, patatras, ça se fait pas. Ils sont plus d'accord sur les parts qu'il faut donner, ils sont plus d'accord sur le poste que Daniel Massé pourrait tenir dans l'entreprise de José Fernandez. Ils se disputent fortement un samedi matin de mars 94 et ça se finit sur une belle engueulade avec un litige financier puisque du coup, Daniel Massé dit à José Fernandez « Bah, moi, je t'avais prêté des machines pour que ton entreprise soit lancée. Du coup, tu m'intègres pas à ton entreprise, donc maintenant, tu vas me payer mes machines et ça vaut 50 000 francs de l'époque. » Voilà, et personne n'est d'ailleurs d'accord sur le prix des machines. Bref, c'est un litige vraiment commercial, financier, banal dans la vie d'une entreprise, et on est sur 30 000 francs, c'est-à-dire pour à peu près se rendre compte, 4 500 euros. L'engueulade, si on peut dire, c'est mars 94, et l'explosion, c'est décembre 94. Voilà.
Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que les époux Hernandez font immédiatement le lien, parce qu'il n'y a que quelques mois qui séparent... l'engueulade de l'explosion.
En parlant de l'explosion, Adèle, est-ce que tu peux juste nous préciser, c'est un colis, c'est ça, qu'ils reçoivent devant leur local d'entreprise, c'est ça ?
C'est ça, en fait, c'est le 16 décembre 1994, les époux Hernandez, donc Joseph et Dominique Hernandez, arrivent sur leur lieu de travail, donc, et devant la porte de leur entreprise, devant la porte de Medilens, il y a une caisse en bois qui a été déposée devant leur porte. Ils ouvrent la caisse et c'est en fait une bombe artisanale qui leur explose au visage. Donc la température a été estimée par les experts à 1000 degrés, d'où le nom du podcast. Et ils sont tous les deux grièvement blessés et immédiatement emmenés évidemment à l'hôpital. Ils ont tous les deux survécu, mais voilà, ils sont tous les deux très grièvement blessés. Et immédiatement, sur le trajet qui les emmène à l'hôpital, ils désignent Daniel Massé comme le coupable.
Vous me donnez une excellente transition. On a parlé un petit peu du cas Massé. On va maintenant parler du travail que vous avez fait, donc un travail de contre-enquête, une vingtaine d'années après les faits. Maintenant que votre enquête est bouclée, est-ce que vous pouvez nous dire si jamais vous avez des éléments qui permettraient de remettre la question du doute et éventuellement de rouvrir l'affaire Massé aujourd'hui ?
Alors, d'un point de vue judiciaire, on n'a pas d'éléments, selon nous, qui permettrait d'entamer une procédure en révision qui est très cadrée en France. Et pour que des juges estiment qu'un procès en révision est possible, il faut qu'il y ait des éléments nouveaux et notamment souvent la désignation d'un autre coupable. Donc, vu que nous, on a fait plus un travail sur le doute, finalement, et sur les pistes non explorées, on ne pense pas que les éléments que nous ayons en main permettent de rouvrir un procès en révision. Néanmoins, les failles systémiques qu'on a pu mettre à jour dans le dossier auraient pu permettre, enfin, c'est en tout cas notre avis, peut-être de faire un troisième procès dans le sens de la cassation pour casser la décision qui avait été prise à Montauban en décembre 2003 lorsque Daniel Massé a été condamné, parce que c'est vrai qu'il y avait des choses qui auraient peut-être pu se faire autrement et qui auraient pu amener un dernier procès. Voilà.
Quelle envie, justement, vous animait quand vous êtes lancé dans cette enquête ? Quel était votre objectif ?
Je crois que l'objectif, c'était justement de se dire on va apporter la preuve irréfutable de la culpabilité ou de l'innocence de Daniel Massé, mais d'embarquer avec nous, les auditeurs, dans cette enquête sur qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce qu'on se rend compte en plus que 25 ans plus tard, on est confronté au problème de la mémoire, des souvenirs qui sont un peu flous, et on réalise qu'effectivement, il y a des failles, et il y a des problèmes systémiques, et c'est une affaire qui est profondément humaine. D'ailleurs, les erreurs qui ont pu être commises à l'époque sont des erreurs qui sont aussi liées à l'humain, qui sont principalement liées à l'humain, et qui, en même temps, cette affaire très très humaine dit beaucoup de choses de notre système judiciaire et de la justice pénale en France aujourd'hui.
En fait, il y a la sensation que cette affaire est mal refermée, que ce soit du côté des victimes ou du côté de celui qui a été accusé, de Daniel Massé, ça c'est une évidence, mais du côté des victimes, il y a encore de la place pour que Daniel Massé clame son innocence. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que les victimes sont totalement installées dans leur position de victime? C'est une question. Et donc, on s'est attaqué à une histoire dont le couvercle n'était pas scellé et on n'est pas venu déboîter tout ça. C'était mal refermé, il y avait des souffrances des deux côtés, il y avait des souffrances dans la famille des deux côtés, je pense aux enfants, côté Massé, côté Hernandez. C'était des collègues de travail, donc des hommes qui avaient le même âge, qui avaient des enfants du même âge, qui allaient au lycée à ce moment-là. Donc des jeunes qui se fréquentaient à une époque, puisque les deux étaient amis, puisque les deux familles étaient amies. Et que ça soit du côté Massé ou du côté Hernandez, ils ont eu des deux côtés une pensée pour l'autre famille. Et on sent que voilà, il y a des cicatrices extrêmement fortes et que évidemment comme on nous a dit souvent au cours de cette enquête, ce colis il a explosé chez les Hernandez, mais il a explosé aussi chez les Massé et il a fait exploser les deux familles.
Donc vous avez récupéré les dossiers auprès de la défense, hein, si je dis pas de bêtises. Quelle a été la première étape? Par quoi vous avez commencé votre travail d'enquête?
Il y a tout un travail d'abord de lecture du dossier pour justement s'imprégner du dossier, de l'affaire, comprendre exactement la chronologie des faits, les enjeux, voir si effectivement il y a potentiellement de la matière. Une fois qu'on a le dossier entre les mains, c'est là qu'on peut vraiment réaliser si oui ou non il y a matière à enquête ou contre-enquête. Et ensuite, on a contacté les principaux intéressés. Donc Daniel Massé a été le premier à accepter de nous parler. Donc on a eu tout de suite son point de vue. Joseph Hernandez a été plus compliqué à convaincre puisque en tant que victime pour lui voilà, l'affaire est bouclée, la justice a été rendue et le coupable a été condamné et il ne voyait absolument pas l'intérêt au départ de venir remuer le passé. Il a finalement accepté de nous parler. Du coup, une fois qu'on a eu les deux points de vue principaux, donc celui de la victime et celui de Daniel Massé, on a fonctionné par cercle, en fait. On a commencé à contacter les sources par cercle, un peu en se remettant finalement dans la peau des enquêteurs de l'époque. Donc les premiers témoins de l'explosion, les gendarmes, les policiers, les experts, donc aussi bien les experts qui étaient mandatés par le juge d'instruction, donc les experts judiciaires du dossier, mais aussi des experts extérieurs à l'affaire, pour justement avoir aussi des points de vue complètement objectifs et neutres sur cette affaire. Pour des points très précis, par exemple, on est allé voir une avocate spécialiste du droit des obligations qui nous a décortiqué le contrat de prêt, justement. On lui a apporté le contrat de prêt, on lui a mis sous les yeux, on lui a dit concrètement, là, est-ce que le contrat est bien fait?
Voilà, juste pour le contrat de prêt, Daniel Massé et Joseph Hernandez ont un litige financier et commercial et il y a des contrats écrits à la main, donc il faut se remettre un petit peu à l'époque où on décrit les choses mais évidemment accompagné d'aucun avocat, donc tout ça est un petit peu flou et c'est sur cette matière-là en fait que les sentiments d'injustice peuvent naître, que les incompréhensions sont nées et nous, on est allé mettre... Donc, c'est le mobile, entre guillemets. Hein, c'est bien là-dessus que les enquêteurs se sont appuyés. Et donc, on est amené ce contrat à une avocate pour qu'elle nous dise ce qu'elle en pensait et comment ça avait été rédigé. Est-ce qu'il y avait malice? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était lésé? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait voulu arnaquer l'autre? Et ça nous a aussi apporté un petit peu de hauteur, puisque ça, c'est un travail qui n'avait pas forcément été fait.
Quand on rouvre un dossier 25 ans plus tard, comment on est accueilli, que ce soit du côté des enquêteurs et de la justice, et puis aussi effectivement des témoins hein, qu'on sollicite 25 ans plus tard. On imagine que la mémoire peut jouer des tours.
Ça, c'était un des plus gros défis de... En tout cas, la mémoire, ça a été un des plus gros défis de cette affaire, puisqu'effectivement, on s'est rendu compte au fil des interviews et au fil de notre enquête que les gens nous mentaient, qu'il y avait des petits mensonges, mais qui n'étaient pas forcément des mensonges volontaires, mais juste les souvenirs qui sont devenus flous. Et voilà, quand parfois on comparait les procès-verbaux d'audition de ce qui avait été dit à l'époque avec le témoignage qu'on avait recueilli au micro 25 ans plus tard, ça ne correspondait pas toujours, donc il fallait retourner voir les sources, etc. En ce qui concerne l'accueil, on a plutôt été bien accueillis. Pratiquement toutes les personnes ont accepté de nous parler. Il y a quelques personnes dont on aurait vraiment souhaité pouvoir recueillir les témoignages qui n'ont pas voulu remuer le passé. C'était souvent ça, l'argument. Mais... Non, on n'a eu aucun problème. Je pense que là, il y avait une vraie nécessité aussi d'expliquer la démarche. Parce que la question qu'on nous posait à chaque fois qu'on parvenait à retrouver ces personnes-là et à les contacter, parce que dans les procès-verbaux d'audition, on avait des numéros de fixe avec des noms qui parfois avaient changé. Quand on parvenait à retrouver ces personnes-là et à les contacter, la première question, c'était « Mais quel est l'intérêt pour le public ? Enfin, pourquoi vous, journaliste, vous pensez que les gens vont être intéressés par cette affaire qui date de 25 ans ?» Donc il y avait vraiment une démarche de... Voilà, il fallait expliquer notre démarche et voire réexpliquer à plusieurs reprises, parce qu'il y a eu certains moments de doute de certaines de nos sources qui s'étaient complètement livrées, complètement lâchées, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a un coup de téléphone, il me dit « Mais je ne suis plus très sûre, est-ce que vous pouvez me réexpliquer comment va être utilisé mon témoignage ?» Voilà, donc il fallait aussi, il y avait un, expliquer la démarche, et deux, savoir aussi rassurer et réexpliquer si besoin quel était l'objectif de notre travail.
Émilie ?
Du côté des victimes, c'est nécessairement plus compliqué à entendre cette démarche. Donc effectivement, c'est surtout de ce côté-là qu'il a fallu qu'on explique notre travail. Et ce qui a été très important pour nous, c'est de le faire avec éthique. Joseph et Dominique Hernandez sont victimes, quoi qu'il arrive. Et il faut que ça soit extrêmement clair. Et on a essayé de travailler dans notre podcast pour que ça soit une évidence. Et c'est pas parce que nous cherchons à aller explorer des pistes non terminées qui gênent aujourd'hui la cicatrisation de cette affaire qu'elles ne sont pas des victimes. Est-ce qu'elles ont subi quitter sa maison pendant plus d'un an pour faire des soins, ne plus être avec ses enfants, arrêter complètement sa vie? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas imaginable, concevable. Voilà. Donc ça, c'était très important pour nous de leur conserver, quoi qu'il arrive, ce statut de victime et que ce soit une évidence. Et elles ont une certitude. Joseph Hernandez a une certitude qu'il porte depuis le début. Sa femme est décédée depuis, mais d'un cancer. Mais le couple a tout de suite eu une certitude. C'est la leur. On ne peut pas leur enlever. Néanmoins, on est allé travailler sur les pistes qui n'avaient pas été explorées. Mais ça n'enlève rien à ce qu'ils ont vécu et à ce qu'ils pensent.
Adèle.
Et ce sont aussi des personnes, enfin en tout cas en ce qui concerne Joseph Hernandez, on est dans une affaire où la victime est vivante, où ses enfants sont en vie. On sait que Joseph Hernandez va écouter notre podcast. Donc en termes d'écriture et d'éthique dans la structure de cette enquête, il fallait justement avoir une démarche très très claire et très transparente et... Voilà.
Est-ce que c'est ce qui fait que vous n'avez pas eu de friction ou alors qu'elles ont été faibles avec la magistrature ou les policiers dont potentiellement vous remettiez quand même le travail en question ?
Étonnamment, c'est vrai qu'on pouvait remettre le travail en question, mais finalement je pense que ça c'est le temps qui nous a aidés. C'est-à-dire que certaines des personnes qui ont écrit les rapports, qui étaient dans l'enquête, le temps a beaucoup passé, donc ce n'est plus à vif. Donc cette démarche ne leur paraissait pas forcément négative. Ils étaient contents d'en reparler, peut-être pour certains d'ailleurs, sur ce qu'ils avaient fait comme travail. Donc on a plutôt été bien accueillis côté magistrature et côté enquêteur. Et c'est vrai qu'ils auraient pu penser ça, mais ce n'est pas forcément le cas. Et c'est effectivement un peu étonnant.
Adèle.
Et c'est vrai que ce sont aussi beaucoup de personnes qui sont à la retraite. Notamment les policiers, les gendarmes qui sont à la retraite, donc qui finalement ne prennent pas beaucoup de risques non plus en nous parlant. Et moi, j'ai eu aussi le sentiment que ça leur faisait du bien aussi de reparler de cette affaire-là, parce qu'on se rend compte dans toutes nos interviews, dans tous nos entretiens, que c'est une affaire qui a vraiment marqué toutes les personnes qui ont travaillé dessus et les personnes impliquées dans cette affaire. Et on se rend compte que oui, il y a quelque chose, un goût d'inachevé peut-être, dont certaines personnes avaient besoin de parler.
Mais c'est étonnant qu'on parle de ça, parce que en faisant mes recherches, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait eu énormément de couverture médiatique des différents procès. Moi, j'ai découvert évidemment cette affaire avec vous en travaillant sur cette émission, mais c'est vrai qu'il y a très très peu d'articles qui ont suivi les différents procès de Daniel Massé.
Oui, c'est assez étonnant, parce que pourtant le procédé même du colis piégé aurait dû, entre guillemets, intéresser et susciter des articles. Alors on est en 94, il est du coup après mis en détention préventive en 95. La France est à ce moment-là aux prises avec des attentats terroristes du GIA. Donc peut-être que c'est pour ça que cette affaire-là est passée à l'as. Et après, ça revient en procès en 2002 puis en 2003. Est-ce que le temps a beaucoup passé, que cette affaire intéresse moins? Là, et peut-être aussi parce que du coup il y avait un coupable qui était désigné dans le dossier d'instruction, et voilà, peut-être que ça mettait peut-être moins d'enjeux, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu une couverture médiatique nationale. Ça a été couvert au niveau local par la Dépêche du Midi, on a pu rencontrer le journaliste et c'était extrêmement chouette d'avoir ses impressions, mais c'est vrai qu'on pouvait imaginer que ça soit une affaire comme, voilà, qu'on puisse retrouver dans des JT nationaux, et c'est pas forcément le cas.
Vous pouvez me dire un peu comment vous êtes organisé, parce que c'est un travail de plusieurs mois, comment vous êtes réparti les tâches, si vous êtes entouré de conseillers, d'avocats, ce genre de choses. Tout à l'heure, on évoquait le fait que vous aviez effectivement sollicité une avocate spécialiste dans les obligations et donc dans la rédaction des contrats.
Bah en fait, pour la prise du dossier, j'ai commencé par la requête en révision, c'est-à-dire que j'ai commencé par les arguments de la défense et Adèle a commencé par le dossier. Et après, on a inversé, ce qui fait que ça a donné des échanges assez amusants d'ailleurs, parce que du coup, moi, j'avais tous les arguments de la défense, elle avait un dossier qui était à charge, et après, on a réinversé, donc c'était assez drôle de pouvoir revenir sur certains arguments, et puis de faire dans un sens et puis dans l'autre. Ensuite, pour le travail de contact des sources, souvent, c'est moi qui prends plus en charge le contact des sources, sachant qu'après, en termes d'explication, c'est souvent Adèle qui prend le relais. Voilà, on a chacune un petit peu nos spécialités. Sur le terrain, il faut souvent un lead quand on a un micro, tout simplement, pour expliquer aux gens. Donc, c'est souvent plutôt Adèle qui a le lead et moi qui suis juste un petit peu en écoute pour vérifier que rien ne passe entre les mailles de toutes les questions que nous avions prévu de poser, sachant que je ne me gêne jamais pour rebondir au besoin. Donc ça, c'est notre organisation un petit peu sur technique. Et puis oui, on a eu besoin évidemment de s'entourer de personnes pour nous aider et nous accompagner tout au long de cette enquête, parce que c'était long, compliqué, humainement, journalistiquement, éthiquement, et que ça nous a évidemment emmené dans un terrain sans doute encore plus difficile que ce que nous avions pu imaginer au départ. Donc on a été content de pouvoir compter sur plein de personnes.
On a proposé à des étudiantes de l'université d'Assas de participer à ce projet. Donc en fait, on leur a donné le dossier et on leur a pointé des éléments, des points de droit très précis pour lesquels elles ont fait des recherches pour nous sur des points très particuliers. Par exemple, est-ce que cette perquisition de mars 95 chez Daniel Massé a été faite de manière régulière, par exemple une question. Donc des questions très précises qui nous ont permis de nous concentrer sur d'autres choses, et elles, on leur a fait confiance parce qu'elles ont cette expertise, elles font ça toute la journée et elles ont accès aussi à des ressources auxquelles nous on n'a pas accès par l'université. Donc ça a été une vraie collaboration avec ces étudiantes d'Assas. On a aussi rencontré donc cette avocate pour les contrats, qui nous a bien éclairé sur le contrat qui est le mobile dans l'affaire. On a aussi rencontré une avocate spécialisée cette fois-ci dans le droit de la diffamation, à qui on a pu parler assez librement de certains éléments qu'on a mis à jour pendant au cours de l'enquête. Et pour la protection de nos sources et pour nous protéger aussi, on voulait s'assurer, on voulait être sûr d'être en règle et de pouvoir sortir ces informations-là sans conséquences pour nos sources et pour nous. Et puis on travaille aussi avec un consultant au Canada qui est ancien policier, qui est journaliste spécialisé dans la rubrique police-justice à Radio-Canada et ancien policier en France. Donc c'était aussi hyper intéressant, enfin c'est très intéressant d'ailleurs de travailler avec lui et d'avoir des retours sur l'écriture de notre podcast. À beaucoup de moments, on a manqué de recul aussi sur notre affaire, parce que quand on passe 6 mois à enquêter sur la même affaire, c'était important pour nous de nous entourer de personnes extérieures et bienveillantes qui pouvaient nous dire, comme Stéphane Berthomet, mais oui, cette piste-là, alors qu'on n'y pensait même plus, cette piste-là, et moi j'ai envie d'en savoir plus. Ça, c'était super.
Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez attendu? C'est-à-dire que c'est un podcast qui justement va être écouté par les différentes parties, par potentiellement la justice, les policiers qui ont travaillé sur l'enquête, ou même de nouveaux policiers. Comment vous vous placez par rapport à ça et par rapport à cette potentielle attente ou ces retours que vous pourriez avoir des différentes parties en place dans cette affaire?
Moi, j'ai le sentiment qu'on s'est tellement torturé l'esprit pendant toute notre enquête pour essayer de mener cette contre-enquête de manière vraiment éthique et juste, que j'appréhende pas spécialement les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'espère qu'on aura des retours. C'est le but. On a envie que cette affaire soit, qu'on en parle en fait, parce qu'effectivement il y a des choses à dire sur cette affaire. Mais personnellement, j'appréhende pas spécialement les retours, parce que on a vraiment penser en amont justement toutes les critiques qui pouvaient être faites sur un travail de contre-enquête journalistique de manière générale.
Au cours de l'enquête, il y a un moment donné où du côté des victimes, on avait l'impression qu'on était du côté de Daniel Massé, et du côté de Daniel Massé, on nous a fait tout à fait comprendre qu'on était du côté de Joseph Hernandez. Donc on s'est dit, après s'être fait engueuler, disons, des deux côtés, qu'on ne devait pas être si mal dans notre travail, puisque personne ne pensait qu'on travaillait de son côté. Donc on s'est dit que ça devait être pas si mal que ça. Bon, moi aussi, je me dis qu'on a quand même, on s'est vraiment creusé la tête pour que ça soit le plus juste et le plus éthique possible, comme disait Adèle. Je pense qu'il y aura nécessairement des critiques, mais on est mesuré dans ce que nous disons. On est mesuré dans, voilà, pour être juste, pour rester sur cette ligne de crête. Et ce que nous montrons et ce que nous disons, on a des preuves, on a des éléments, on a parlé, enfin, ce que nous disons, c'est vraiment sur des éléments matériels. Donc on est normalement, on est
sûr
bien
de vous.
Bien sûr, voilà.
Et puis il y a aussi ce jeu de la transparence, que ce soit avec nos sources, mais aussi avec les auditeurs, en utilisant la première personne du singulier ou du pluriel. C'est aussi un choix qui a été, enfin, on a vraiment réfléchi à cette question avec Émilie. On voulait pas juste utiliser la première personne du singulier ou du pluriel juste pour l'utiliser. Mais on y a vu un réel intérêt journalistique et un réel intérêt pour les auditeurs. Parce que voilà, on a envie d'être honnête avec nos sources, mais avec nos auditeurs aussi. Et du coup, de leur dire, bah voilà, là aujourd'hui, on ne sait plus quoi penser et on partage ces doutes-là. Il n'y a jamais, rien n'est mis en scène. Parfois, on laisse l'enregistreur allumé avec Émilie en voiture ou en travaillant sur le dossier. Voilà. Et oui, bah parfois, d'un seul coup, on va nous entendre dire que, je ne sais pas, partager nos questionnements, des remises en question, découvrir un nouvel élément. Et cette transparence-là, je pense que elle va jouer en notre faveur, j'espère.
Pour les amateurs de true crime et de podcasts américains, c'est vrai que c'est une tendance narrative, c'est-à-dire où le journaliste se confie et raconte un petit peu justement ses doutes, sa façon de travailler, les méthodes qu'il a employées. C'est quelque chose qui a été très popularisé par le podcast américain Serial, qui est sorti dans les années 2014 et qui a vraiment fait exploser le podcast outre-Atlantique. C'est pour vous une source d'inspiration limpide, c'est-à-dire vraiment directe, ce Serial?
Oui, enfin, ce serait mentir que de dire que ça nous a pas inspiré. Moi, je suis, euh, personnellement, je me suis complètement imprégnée de l'univers du podcast par Serial, puisque j'étais aux États-Unis quand c'est sorti et j'ai vraiment suivi cette explosion du phénomène podcast et du phénomène true crime. Après, je pense qu'on a réussi, en tout cas, on a essayé d'imaginer, quand je suis rentrée en France, on a essayé d'imaginer ce qu'on appelle, entre nous, en tout cas pour l'instant, l'investigation narrative. Avec cette idée d'allier nos expertises sonores, nos expertises d'écriture, nos expertises d'enquête aussi, et de créer quelque chose voilà, qui sort un peu du lot. On ne sait pas encore comment ça va être perçu ni reçu, mais c'est l'idée de dévoiler des éléments journalistiques, d'apporter des éléments d'enquête qui sont issus d'une réelle enquête journalistique pure et dure, et d'y associer des éléments et des techniques de scénaristes pour voilà, la raconter comme une histoire.
Mais c'est vrai que si c'est une inspiration, on a aussi réfléchi à ce qui nous intéressait le plus dans ce que Serial a fait et ce que nous, on avait envie de faire et ce qui nous parle en tant que journaliste. Donc s'il y a des choses communes, par exemple comme le fait de dévoiler les coulisses ou d'utiliser le jeu, on est aussi sur une patte à nous qu'on essaye de développer. Et par exemple, on a deux voix et il n'y a pas seulement une seule voix parce qu'il se trouve que nous, l'enquête, on l'a fait à deux. Donc on assume deux voix de femmes qui ne sont pas exactement pareilles mais qui vont alterner. Il y a des choses qui sont différentes aussi dans la place donnée à la réalisation, puisqu'on a un réalisateur qui s'appelle Vincent Guillot, qui nous a composé toute la musique du podcast et qui existe vraiment un peu comme un personnage d'ailleurs, puisqu'il apparaît à un moment donné aussi dans le podcast, parce qu'on lui a parlé de tout ce qu'on faisait et il s'est inspiré de tout ce qu'on lui racontait, de nos voyages, de nos interviews pour créer sa musique. Et puis il nous reposait des questions, ne connaissant pas toute l'affaire, qui nous demandait de retravailler certains points. Et il y a une forme de poésie dans le podcast qui fait partie de l'univers de Vincent, et puis des choses aussi, ça vous allez le découvrir au fur et à mesure, mais un petit peu abstraites, qui font partie d'une réflexion sur comment nous on a vécu l'enquête, et on a essayé de faire des parallèles pas philosophiques mais presque, ça il n'y a pas forcément dans Serial, ça c'est parce que ben, nous on s'est beaucoup creusé la tête sur cette enquête et on avait envie que cette complexité et tout ce qu'on a vécu pendant ces 9 mois d'enquête arrive en épaisseur dans un podcast. Voilà.
J'ai une dernière question. À quel moment vous avez estimé que vous aviez bouclé votre enquête ? Qu'est-ce qui a déclenché ça chez vous, que vous avez dit, bon, on a fait le boulot, maintenant il reste, entre guillemets, plus qu'à scénariser, monter et de faire des interviews ?
Est-ce qu'on a bouclé l'enquête ? On est quand même retourné plusieurs fois, on est retourné plusieurs fois à Toulouse, on a revu nos sources. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand on a eu l'impression d'avoir interrogé toutes les sources possibles, voire un peu insisté pour certaines sources qui avaient refusé de nous parler, et à partir du moment où on avait aussi le sentiment qu'on avait fait le travail qu'on pouvait avec la matière qu'on avait, et le sentiment d'être allé au bout des pistes aussi qu'on voulait explorer. Je pense que là, on s'est dit, bon, ben, il faut qu'on attaque le montage, l'écriture, parce qu'on a 10 épisodes à sortir et qu'il ne reste plus beaucoup de semaines. Mais on est encore en train d'écrire les derniers épisodes. Donc, peut-être que quand les premiers épisodes vont sortir, ça va déclencher des choses. Si certaines de nos sources écoutent le podcast, peut-être que des sources qui, jusqu'à présent, ont refusé de nous parler vont se dire que ça vaut le coup peut-être de témoigner. Donc ça peut peut-être changer un peu la fin, on ne sait pas, on laisse les portes ouvertes.
On a tout dit, la suite de l'enquête, vous la découvrirez en même temps que moi, c'est-à-dire ben, en écoutant 1000 degrés. Depuis le 6 mai, un nouvel épisode est diffusé chaque semaine sur les applications de podcast de votre choix. Voilà qui nous fait, je crois, hein, un deuxième feuilleton haletant avec Game of Thrones. Émilie Denêtre et Adèle Imbert, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu de l'interview. Quelque chose me dit qu'on devrait assez vite entendre parler de vous, puisque avec 1000 degrés, hein, c'est votre première production au sein de Insider Podcast, votre studio de production, un studio qui est consacré à l'enquête, mais aussi à la fiction, donc un tout autre domaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement ?
Insider Podcast, c'est donc effectivement un studio que l'on vient de créer, et qu'on vient de lancer avec Émilie, et on va se spécialiser donc dans ces deux branches, les podcasts d'enquête, dont 1000 degrés est le premier, et les podcasts de fiction, et on a déjà une ou deux idées en cours de route, une idée notamment pour une prochaine enquête et une idée pour une fiction, qui serait une première fiction.
En fait, l'investigation et la fiction ont des points communs, et la fiction est une soupape de sécurité pour les journalistes d'investigation, et certains des personnages qu'on peut rencontrer peuvent nous inspirer, et certaines scènes qu'on n'aurait pas osé écrire en fiction existent dans la réalité, et les deux... dans deux branches différentes, hein, bien entendu, permettent justement de nous redonner du souffle et nous permettent justement aussi d'ouvrir encore plus notre vision. Et je trouve que ça va vraiment... C'est deux domaines qui vont très bien ensemble.
Ouais, la dureté du réel et le fictionnel.
C'est ça. Ce sont deux univers qui se marient très bien et on va aussi produire en anglais. Ça, c'est aussi une des particularités d'Insider Podcast.
On va surveiller vos travaux. Alors, juste un droit, le hors-série, c'est fini. Vous pouvez reprendre une vie normale et mettre vos oreilles au repos. Je dis ça comme ça, mais gardez l'œil ouvert. Notre prochain épisode consacré à l'univers carcéral est tout prêt de débarquer sur votre appli d'écoute préférée. À dans un mois, et que justice soit faite.
Vous voulez un whisky ?
Ou juste un doigt ?
Juste un droit.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.